Bienvenue dans Porte Ouverte, un podcast qui traite de communication, reconversion professionnelle et entrepreneuriat. Vous trouverez des conseils, des témoignages inspirants et des sujets intemporels ou d'actualité. Ensemble, ouvrons les portes de votre succès. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir Silke Pan, ancienne athlète d'antisport et ancienne contorsionniste et trapéziste. Elle n'est pas inconnue du grand public, notamment grâce aux nombreux reportages qui ont été faits sur elle et aux projets qu'elle a entrepris. Silke Pan étonne par sa force, sa résilience, et c'est pourquoi nous sommes ravis de vous partager l'échange que nous avons eu la chance d'avoir avec elle. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Si vous pouviez vous présenter comme vous le souhaitez.
Ben, disons que je suis une personne qui a toujours cherché le dépassement de soi à travers l'art et le sport. Et ça, je l'ai exprimé de différentes manières, enfant et adolescente en pratiquant différents sports acrobatiques. Plus tard, en me formant en tant qu'artiste de cirque, contorsionniste, trapéziste. Et après l'accident que j'ai eu en 2007, qui m'a rendue paraplégique, là, à travers le sport de haut niveau en paracyclisme, des différents grands défis sportifs que j'ai faits, et actuellement, en étant retournée à ma première vocation d'être artiste, acrobate de cirque, et en pratiquant l'acrobatie, les équilibres sur main.
Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait dans cette voie, dans la voie justement de l'art, de l'acrobatie, du spectacle?
C'est quelque chose qui est vraiment venu de l'intérieur. J'ai toujours eu la passion, enfin depuis toujours où je me souviens de moi, j'ai toujours eu la passion pour la gymnastique artistique, la GRS, la gymnastique rythmique sportive, acrosport, contorsion, trapèze, danse, enfin tout ce qui est toutes les disciplines de cette famille. Et c'est ça en fait, c'est cette passion qui m'a poussée dans cette direction, et ça a toujours été plus fort que ma raison. C'était un stimulation à moteur, et je pouvais pas faire autrement que de le suivre.
Justement, vous parlez de raison. Parfois, c'était plus fort que la raison. Est-ce qu'il y a justement des moments où vous avez dit que vous alliez arrêter, ou justement ou des moments où vous avez dit que peut-être vous alliez partir dans une autre voie, à cause justement de la raison?
Alors, des fois, je me suis dit que peut-être quand le temps passerait avec l'âge, il faudrait que je change de voie. Mais dans ma tête, ça a toujours été quelque chose dans le domaine de l'art et en relation avec l'expression corporelle. C'est tout ce qui me passionne le plus et qui m'intéresse le plus. Bien sûr, j'aurais pu me forcer à faire autre chose, mais j'aurais pas été heureuse.
Voilà. C'était une évidence.
Oui, exactement.
Et j'imagine, au cours de votre parcours, vous avez dû faire beaucoup de rencontres. Quelle rencontre a été la plus déterminante à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, la rencontre la plus déterminante a été avec Antonio Giarola, le metteur en scène, directeur artistique de différents grands événements, notamment le Salieri Circus Award, parce que c'est vraiment lui qui a cru en moi et qui m'a permis de présenter mes performances au grand festival qu'il organise en Italie. Et ça a été un véritable tremplin pour ma carrière. Continuer à suivre ma carrière, et il a aussi recréé une mise en scène différente de mon numéro. Enfin, il me suit de près, et pour moi, il est une personne, un grand pilier dans cette nouvelle carrière artistique.
Donc, vous travaillez toujours ensemble, si je comprends bien?
Et en fait, son agence, il a l'agence Pro Eventi à Vérone, par lesquelles je passe pour de nombreux contrats.
Vous nous l'avez dit juste avant, vous avez eu un accident en 2007 qui vous a rendu paraplégique. J'imagine que dans ce genre de moment, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. À quel moment vous êtes rendu compte que vous alliez quand même continuer dans le domaine du spectacle et que finalement la passion
restait la même et que vous aviez envie de continuer à la pratiquer?
Alors, ça a été un processus. En sortant de l'hôpital en 2008, avec mon mari, nous avions recréé un spectacle tout public, mais pas acrobatique, avec beaucoup de ballons, un peu de musique, du théâtre, enfin, toutes ces autres choses. Et nous avions retravaillé pendant une année avec ça, aussi dans un parc d'attractions en Italie. Dans un premier temps, après l'accident, c'est presque normal qu'il fallait trouver une solution pour retourner dans ce qu'on avait le plus connu. Mais après cette année-là, moi, j'avais plus envie. En fait, j'avais plus envie d'être sur scène, j'avais plus envie de faire des spectacles, je me sentais pas prête. Niveau mental, en tant que paraplégique, à faire cette profession. Là, j'ai voulu me retirer complètement du milieu, c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, on a bifurqué dans un autre domaine qui était quand même dans les événements, mais dans la création de décors en ballon et sculptures en ballon. On a créé notre entreprise avec mon mari et parallèlement, je me suis mise au sport de haut niveau en paracyclisme. Et j'ai fait ça pendant plus de 13 ans. Et c'est seulement pendant la pandémie, en fait, qui a stoppé, qui a mis un frein aux courses, qui a mis un frein à mon programme sportif, que j'ai pu prendre le temps de me remettre en question et de me rendre compte que finalement, c'était pas ce sport qui me rendait heureuse, que c'était pas ça dont j'avais besoin. Et j'ai osé expérimenter différentes choses jusqu'à trouver qu'en fait, malgré les essais infructueux du début et malgré ce qu'on m'avait dit et malgré tous mes doutes, que j'étais capable de me remettre en équilibre sur main et de faire des choses au niveau acrobatique. Et là, j'ai décidé de faire ma dernière saison au niveau sportif et de retourner dans le spectacle. Enfin, j'ai d'abord pas osé y croire, mais j'ai eu juste à la fin de ma dernière saison sportive qui est en 2021, j'ai eu un premier engagement d'un cirque et c'est ça qui m'a permis d'y croire que c'était possible. Donc le retour au spectacle, il est venu longtemps après l'accident.
Et du coup, ce cirque, c'est vous qui l'avez contacté, ceux qui vous l'ont trouvé, comment ça s'est passé?
C'était le cirque Helvetia en Suisse. C'est eux qui m'ont contacté. Moi, j'avais juste posté quelques images sur les réseaux sociaux sans penser que j'étais capable de faire un numéro complet avec ce que je présentais. Et eux, quand ils ont vu les images, ils m'ont demandé si j'étais d'accord de venir travailler pour eux. Vu qu'ils me l'ont demandé, alors je me suis dit que si eux y croient en moi, je vais aussi croire en moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé mon premier numéro. C'est un petit peu l'extérieur qui m'a fait croire en moi à ce niveau-là. C'est ce premier engagement, c'est le directeur du cirque et le public. Parce que avant le premier spectacle, j'étais vraiment dans le doute, avant les premiers spectacles. Et c'était les réactions du public qui m'ont démontré que oui, j'avais vraiment de nouveau ma place à cet endroit-là.
Et qu'est-ce que vous ressentez justement à l'idée d'être à nouveau dans votre domaine de prédilection?
Je me sens beaucoup plus sereine, je me sens juste par rapport à là où je dois être dans la vie. J'ai l'impression de rien devoir forcer. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense est en accord. Donc, je me sens dans un équilibre intérieur et extérieur. C'est très agréable.
Et qu'est-ce que tout ce cheminement justement vous a appris? Ou sur la vie, sur peut-être aussi votre relation avec les autres?
Oui, ce que ça m'a appris, c'est que le plus important, c'est la paix qu'on peut avoir en soi. Le plus important, c'est d'être clair dans sa tête, être, comment dire, serein, en harmonie, être structuré par rapport à notre intérieur, par rapport à nos pensées. Que même si on est un athlète de haut niveau comme je l'ai été et finalement comme je le suis toujours, avec l'art que je pratique, c'est pas le corps en premier. Le corps, oui, il est très important, on doit en prendre soin parce que c'est notre instrument d'expression et de travail. Mais avant toute chose, pourtant, c'est le mental, garder le calme intérieur dans tout ce qu'on fait. C'est ça que la vie m'a appris.
Justement, quelle est votre routine pour pouvoir justement prendre soin de votre corps, mais surtout de votre mental?
Alors, le matin, commence ma journée en faisant comme une analyse de ce que j'ai fait le jour d'avant, de ce que j'aimerais faire dans la journée, comment je veux structurer ma journée. Étant donné que je me déplace beaucoup, je voyage beaucoup, donc j'ai pas un rythme qui m'est imposé par la vie extérieure, donc je me crée ce rythme moi-même. Le travail administratif, je le fais plutôt le matin. À la mi-journée, je mange mon premier repas, quelque chose qui est très digeste, pas trop lourd sur l'estomac. Et après, l'après-midi, il est consacré à mon entraînement, quelle que soit la météo.
On est combien d'heures par jour?
À peu près 4 heures, comme ça.
Tous les jours?
Oui, 3, 4 heures, en tout cas. Et puis, le soir, on fait un repas en commun avec mon mari, et puis on a aussi souvent des amis, donc le soir, un peu, c'est le moment en commun. Et puis je refais une séance d'entraînement le soir à partir de 22 h, entre 22 h et minuit, pour habituer mon corps et ma concentration à travailler le soir, parce que les spectacles, c'est souvent le soir, et si je m'y habitue pas, après, j'arrive pas à être au top à ce moment-là. Donc, même si parfois je sens la fatigue arriver, je me force à être réveillée et à faire cet entraînement. Et après, je termine en général en faisant des massages et tout pour décontracter ma musculature pour que je puisse mieux me régénérer la nuit et reprendre le lendemain. Et voilà. Et puis, comme tout athlète, comme toute personne qui travaille avec son corps, eh bien, je fais bien sûr très attention à mon alimentation pour avoir mangé un maximum de produits naturels, pas industrialisés. Et voilà, je mange végétarien, presque végétalien. Voilà. C'est ce qui me convient le mieux.
Et au niveau de votre mental, bon, j'imagine que cette routine participe aussi à votre équilibre mental, mais est-ce que vous faites quelque chose en particulier pour prendre soin de votre morale?
En fait, je fais, on va dire, c'est peut-être comme de la méditation, mais je sais pas si c'est de la méditation à proprement dite, mais je prends toujours un moment dans la journée pour écouter de la musique douce et visualiser la lumière sur moi, autour de moi, dans les cellules de mon corps pour apporter la santé à mon corps. Et puis, en travaillant ma respiration, voilà, je prends toujours ce moment, en fait, pour une énergisation intérieure, si on peut dire comme ça. Ça fait partie aussi de mes routines, ouais, le travail sur la paix intérieure.
Un
Ouais.
exercice que vous faites depuis longtemps?
Oui, en fait, quand j'étais adolescente, j'ai énormément pratiqué la sophrologie, la méditation, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et comme je faisais du sport aussi de haut niveau, ça m'aidait beaucoup. Et après, j'ai plus suivi de cours ou de séminaires avec ça plus tard, mais c'est quand même quelque chose qui est resté en moi. Et il y a eu des périodes dans ma vie où je le pratiquais peut-être un peu moins parce que j'étais prise par le stress de la vie, notamment pendant cette période de sport de haut niveau en cyclisme, en paracyclisme. C'était une période vraiment stressante et je faisais encore ces exercices, mais j'étais moins calme intérieurement et je pouvais moins disposer de mon temps comme je le fais maintenant. Et maintenant, c'est devenu de nouveau quelque chose de beaucoup plus naturel qui fait partie de ma vie depuis que j'ai arrêté ma carrière d'athlète de haut niveau.
J'imagine qu'au cours de votre parcours, vous avez dû recevoir beaucoup de conseils de beaucoup de monde. Quel est le
Oui.
conseil qu'on vous a donné et que vous avez décidé de jamais suivre?
Ce que je suis pas et qui m'intéresse pas qu'on me dise, c'est pourquoi faire autant? T'as déjà fait tellement de choses. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Parce que ce que je le fais pas pour me prouver, pour prouver au monde quoi que ce soit. Je le fais parce que c'est un besoin intérieur, parce que j'ai besoin de ça pour être épanouie, pour être heureuse. Les personnes qui veulent m'arrêter dans mon énergie, j'aime pas du tout. Enfin, ça me fait me sentir assez mal. Et parce que je peux pas ne rien faire. Enfin, me reposer, ça me rend malheureuse. J'ai besoin d'être très active. Et du coup, le conseil de me reposer, ça m'intéresse pas. Je me repose à ma manière. Voilà, je me repose en changeant d'activité. Mais je supporte pas des choses comme lézarder au bord de la plage, passer 3 heures à discuter autour de rien, être juste assis dans un fauteuil à regarder par la fenêtre. Enfin, c'est des choses que je supporte pas. Ça me fait monter agitation intérieure. J'ai besoin d'être active. Voilà, j'ai besoin de faire des choses que j'ai choisi de faire.
Vous avez toujours été comme ça?
Oui, toujours.
C'est vraiment
Et
dans votre
même,
nature.
ouais, même plus. Enfin, je me suis beaucoup calmée hein, avec les années, mais j'étais encore beaucoup plus. Donc, enfant, adolescente, j'étais hyper active. J'étais, enfin, les gens qui me connaissent ne me voyaient jamais assise. En fait, j'étais toujours, toujours, toujours en activité, en train de faire des choses. Je pouvais pas pas aux yeux de l'extérieur, je pouvais pas me détendre, relaxer, mais c'est pas vrai. En fait, j'étais très détendue au fond de moi. J'étais détendue dans l'activité. Mais j'ai toujours été comme ça fait partie de ma personnalité. Et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la stimulation, d'une activité et de quelque chose qui est un petit peu difficile aussi pour avoir l'impression d'avancer, de progresser dans la vie. J'aime pas rester dans des choses monotones qui se répètent tout le temps. J'ai besoin de défis. J'ai besoin, voilà, je m'en mets moi-même parce que c'est ça qui me donne l'impression de vivre pleinement.
Et je pense en effet que votre parcours illustre bien ça.
Forcément.
Et à votre tour, si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait justement suivre son rêve, qui aimerait avancer, qui a peut-être justement une ambition particulière, quel conseil vous aimeriez lui donner?
Moi, je dirais, sois à l'écoute de ton intuition, comprends ce dont tu as besoin pour être heureux, et tant que tu ne fais de mal à personne, vas-y, donne-toi les moyens de réaliser tes objectifs et n'écoute pas ceux qui veulent te décourager.
C'est un très beau conseil. Pour vous, quel est votre plus grand succès à l'heure actuelle? Donc, vous l'avez dit, hein, vous avez été sportif de votre élite, vous avez été acrobate, vous l'êtes à nouveau. Quel est votre plus grand succès?
Mon plus grand succès, ça reste le fait d'avoir osé faire le pas, de sortir de ce milieu du sport de haut niveau, malgré toutes les personnes qui me disaient, oh, mais t'as du talent là-dedans, il faut absolument continuer, tu vas faire les prochains Jeux paralympiques, t'as encore plein de médailles à gagner. Et ben, de pas avoir écouté ces personnes et d'avoir suivi ce qui était important pour moi, malgré tous les doutes des gens autour de moi, et c'est d'avoir trouvé, inventé cette technique qui me permet de me mettre en équilibre sur les mains, d'avoir persévéré dans ces entraînements pour arriver maintenant à avoir une reconnaissance internationale dans le milieu du cirque et du spectacle. Il m'a fallu de la détermination et du courage parce que j'étais pas du tout écoutée par le monde qui m'entourait, sauf mon mari qui croyait toujours en moi. Et jusqu'à ce que je fasse mes preuves et qu'après tout le monde dise, ah, mais t'es incroyable ce que tu fais, bravo, c'est génial. Mais il y a eu un moment où j'ai dû passer par un petit peu une période sombre où j'étais la seule qui croyait en mes visions. Et c'est ma plus grande réussite.
Merci. On aime bien aussi, dans notre podcast, Portes ouvertes, poser quelques petites questions insolites qui seront les mêmes pour tous les invités et invitées. Si vous aviez un super pouvoir, qu'aimeriez-vous avoir?
J'aimerais bien pouvoir élever la conscience de l'humanité pour que nous puissions vivre beaucoup plus dans l'amour et la compassion. Et plus, si possible, autant dans l'égoïsme, la colère et la haine, qu'on puisse agir avec beaucoup plus de respect pour les autres, pour l'environnement, pour les animaux et pour les gens autour de nous. Ça, j'aimerais bien.
Mais si vous aviez justement pendant 5 minutes l'attention du monde entier, qu'est-ce que vous aimeriez dire?
Je dirais stop, ralentissons cette course à la consommation, cette course à vouloir toujours plus au niveau matériel et technologique, et apprenons à vivre heureux et satisfaits avec tout ce que nous avons déjà.
Merci. Et votre citation préférée?
Il y en aurait plusieurs, mais dans le sens de ce que j'ai dit précédemment, ce serait une citation de Gandhi qui dit « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ».
Est-ce que vous avez une habitude inhabituelle ou stupéfiante que vous appréciez au quotidien? Vous avez envie de nous révéler?
Je ne sais pas si c'est une habitude stupéfiante, mais disons que j'aime bien établir un contact un petit peu plus rapproché avec différents êtres vivants. Donc quand je m'entraîne et que je vois passer un criquet, une sauterelle ou même une fourmi, ben je les observe et puis je leur parle, et j'ai souvent l'impression que il y a comme que l'animal ressent cette interaction. Et j'aime bien ressentir des liens plus profonds avec les animaux plus communs, qui sont les chats, les chiens, etc. Mais après aussi avec des plantes, avec les arbres. Il y a un arbre qui est près de chez moi, et puis je le remercie d'être comment il est, et puis de nous donner son énergie, et puis de nous donner sa santé, et d'être là. Et puis j'aime bien parler comme ça avec différents êtres vivants, et j'ai l'impression qu'il y a une communication qui s'établit, et puis j'ai l'impression de sentir leurs réponses, j'ai l'impression d'être écoutée, et voilà, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que je fais depuis de nombreuses années.
Merci beaucoup pour ce partage. Où est-ce que les gens peuvent se rendre si jamais on veut en savoir un petit peu plus sur vous, si on veut connaître, vous êtes en spectacle en ce moment, en représentation?
Alors, là, actuellement, je suis en Espagne, et c'est pour des événements. Pour suivre mes actualités, on peut aller sur Facebook. J'ai un profil et une page. Silke Pan Page Pro est mon profil, à mon nom, quoi. Et sur Instagram. Et après, à partir de mi-septembre, là, je serai en Italie. D'abord à Vérone, ensuite à Milan. Le plus proche de la Suisse, ça sera Milan. Les spectacles vont commencer le 6 octobre et jusqu'au mois de décembre. Et après, ben, ça continue, mais c'est de nouveau un peu plus loin. En Allemagne, à Berlin et tout ça. Mais je tâcherai d'en parler sur les réseaux sociaux si jamais.
Très bien. Donc, on peut tout retrouver sur vos réseaux, donc Facebook et Instagram, c'est ça? Et
oui,
vous avez un site internet aussi?
Oui, j'ai aussi j'ai 2 sites internet. Mais bien sûr, on peut retrouver pas mal de choses sur mes sites internet, mais ils sont moins mis à jour que les réseaux sociaux.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Silke Pan, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous un peu de votre vie, de votre routine et de votre vision des choses.
Merci, je vous en prie. J'espère que c'était suffisamment intéressant pour vous.
Un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de notre cabinet ou prendre contact pour un accompagnement, rendez-vous sur notre site jbcero.ch. Discrètement vôtre.